Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous les amis et bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres ce vendredi. Arbitrage international, une société de Dubaï réclame des millions d'euros à la Tchéquie. Le Conseil des universités invite le gouvernement à soutenir les académiciens turcs victimes des purges. Et enfin, coup d'envoi de la 42e édition de l'école d'été du film Duerske Radishtie. Le groupe Alcor Holdings, basé à Dubaï, réclame près de 500 millions de couronnes à la République tchèque, environ 18 millions d'euros, et devrait solliciter une cour d'arbitrage pour régler le différend. La société prétend que Prague aurait refusé sans raison valable de conclure un contrat de location pour certains terrains sur lesquels ont finalement été construites des infrastructures de transport. La République tchèque fait actuellement face à une dizaine de procédures d'arbitrage international, le plus souvent dans le cadre d'affaires relatives aux centrales photovoltaïques. Le ministère des Affaires étrangères a élargi les recommandations à destination des touristes tchèques séjournant en Turquie après la tentative de coup d'État ratée qui s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Après une nouvelle réunion du groupe de travail chargé de suivre la situation dans le pays qui a été organisée en raison de l'instauration en Turquie de l'état d'urgence, le ministre a invité tous les ressortissants tchèques à porter leur passeport sur eux. Le Conseil des universités a d'ailleurs invité le gouvernement à manifester son soutien aux académiciens turcs qui ont été licenciés suite à ce coup d'État. Dans sa déclaration officielle, cet organe de consultation en charge des questions relatives à l'enseignement supérieur en République tchèque a souligné qu'il fallait que les autorités turques respectent les principes de la liberté des universités, tout en rappelant que des purges similaires ont eu lieu également dans l'ancienne Tchécoslovaquie sous le régime communiste. Le ministère de l'Intérieur souhaite l'envoi d'une cinquantaine de policiers tchèques en Hongrie au mois de septembre pour contribuer à la surveillance des frontières de l'espace Schengen dans le cadre de la dite crise migratoire. Actuellement, 40 policiers sont également présents en Macédoine avec un objectif similaire. Leur mission, qui s'achève théoriquement début août, pourrait être prolongée jusqu'au 11 septembre. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi sur les réseaux sociaux Twitter le ministre Milan Chovanec, qui entend ainsi répondre positivement aux demandes d'aide formulées par la Hongrie et la Macédoine. Le spécialiste des araignées, Milan Jezac, a découvert près de la ville de Lednice, en Moravie du Sud, une espèce jusqu'alors inconnue pour la République tchèque. L'anthropode, appartenant à la famille Pteridae, dont fait également partie l'araignée communément appelée veuve noire, est inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition. Il n'y a que très peu de localités dans le monde où on peut trouver cet animal, a indiqué le spécialiste, qui avait déjà découvert deux espèces inconnues en République tchèque. On passe à la culture et au cinéma. Ce vendredi démarre à Uherské Hradiště en Moravie du Sud la traditionnelle école d'été du film. La programmation de cette 42e édition du plus grand festival du film sans compétition officielle de République tchèque met à l'honneur notamment la cinématographie philippine et celle des pays du groupe de Visegrad, à savoir la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Les organisateurs ont également décidé de consacrer des cycles de projection à William Shakespeare, dont on fête cette année le 400e anniversaire de la mort, au cinéaste italien Luchino Visconti ou encore au début du cinéma de science-fiction. On termine avec la météo. Il fait beau et chaud, c'est-à-dire un temps idéal pour les Libors dont c'est la fête ce samedi, mais également pour les orages qui devraient se manifester en fin de journée. Des températures de 25 degrés à 29 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous proposait Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant en compagnie d'Alžbieta Rouškova.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à tous mes chers amis et bienvenue pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Avant de continuer, remercions tous ensemble à Pierre Ménian pour ce magnifique bulletin d'information. Ce vendredi, nous nous pencherons tout d'abord sur une réunion des premiers ministres des pays du groupe de Visegrad, donc de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Pologne et de la Hongrie. Une réunion qui s'est tenue ce jeudi à Varsovie et qui avait pour le thème principal la réforme de l'Union européenne après le Brexit. Les détails sur ce thème dans quelques instants. On parlera ensuite d'un jeune organiste tchèque, Pavel Svoboda, qui a remporté la deuxième place au concours international Jean-Sébastien Bach, une compétition artistique de musique classique qui est organisée tous les deux ans à Leipzig, en Allemagne. Et enfin, place à la traditionnelle revue de presse d'Alena Gebertova, qui évoquera les sujets les plus abordés dans les journaux tchèques tout au long de cette semaine, dont bien évidemment l'attentat de Nice, mais aussi par exemple la qualité des produits alimentaires en République tchèque. Nous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. S'il convient de protéger l'Union européenne, celle-ci doit aussi être réformée car trop souvent elle ne répond pas aux attentats des Européennes. C'est pourquoi l'Union européenne se doit de revenir à ses racines et se préoccuper davantage de ses citoyens. Ce message est celui qu'a fait passer la première ministre polonaise Beata Szydło à l'issue de la réunion des chefs de gouvernement des quatre pays du groupe de Visegrad, République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie, jeudi à Varsovie. Après le référendum britannique sur le Brexit, les pays d'Europe centrale ont bien l'intention de faire entendre plus que jamais leur voix. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Cela fait quelque temps déjà que les pays d'Europe centrale ne craignent plus d'exprimer leurs pensées et leurs positions et de les exprimer clairement. La réunion de Varsovie a confirmé une nouvelle fois que ces nouveaux pays membres, auxquels on demandait d'abord dans les années qui ont suivi leur adhésion à l'Union européenne d'emboîter le pas des principaux États décideurs en faisant profil bas, avaient désormais bien leur mot à dire. Et Beata Szydło ne s'en est pas privée. Jeudi, la Commission européenne n'a pas tiré toutes les conséquences du référendum britannique, a ainsi déclaré la présidente du Conseil des ministres polonais à l'issue de sa rencontre avec ses homologues tchèques, slovaques et hongrois. Ce dernier est même allé plus loin en jugeant Bruxelles directement responsable du Brexit en raison des mauvaises décisions prises en matière d'immigration. Viktor Orban estime qu'en la matière, l'exécutif européen ne respecte pas les attentes des pays membres et de leur population. C'est pourquoi le groupe de Visegrad considère comme une priorité de faire cesser la pression migratoire qui pèse sur les 28 et de renforcer la protection des frontières de l'espace Schengen, comme cela est réclamé depuis le début de la crise. Un point sur lequel il a été rejoint par le chef du gouvernement tchèque, Bohuslav Sobotka.
Pokud nebudeme schopni realizovat vojenské nebo civilní operace bezprostředním okolí Evropy.
Si nous ne sommes pas capables de réaliser les opérations militaires ou civiles dans les environs immédiats de l'Europe lors de la protection des frontières de l'UE, alors nous ne serons pas en mesure d'intervenir efficacement pour faire front aux multiples risques qui nous menacent aujourd'hui.
Nebudeme schopni efektivně zasáhnout proti celé řadě rizik, které tady dneska hrozí.
Dans une déclaration commune, le groupe de Visegrad a donc réclamé plus de pragmatisme à l'Union européenne, une union qu'il désire voir se pencher sur les thèmes essentiels et les réformes indispensables à un meilleur fonctionnement de l'ensemble. Bohuslav Sobotka, Beata Szydło, Viktor Orban et Robert Fico se sont donc entendus pour exprimer une certaine forme, sinon de ras-le-bol, au moins d'exaspération. Ils ne veulent plus de cette Union européenne institutionnelle telle qu'elle a été construite jusqu'à présent, qui ne répond pas aux attentes des citoyens européens, comme l'a décrite la première ministre polonaise. Là encore, la politique migratoire européenne pose plus particulièrement problème au groupe. Et plus encore après les attaques terroristes, c'est ce qu'a expliqué Bohuslav Sobotka.
Beaucoup de choses ont changé dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les conditions dans l'ensemble se sont dégradées et les menaces pour notre sécurité sont de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi je pense que les Européens ont le droit légitime de penser que l'Union européenne les protégera.
Toutefois, les questions sécuritaires ne sont pas la seule préoccupation de pays, paradoxalement, parmi les moins touchés par les vagues migratoires au sein de l'Union européenne. Le groupe de Visegrad souhaite une réforme en profondeur de l'Union européenne, tout en renforçant le marché commun et en maintenant les quatre libertés fondamentales que sont la circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux. Sur ces deux points concrets, Prague, Budapest, Bratislava et Varsovie voudraient voir, je cite, la plus grande proximité possible avec le Royaume-Uni, et ce, malgré le Brexit. Les Polonais notamment, dont des dizaines de milliers de ressortissants travaillent en Grande-Bretagne, sont inquiets par les limitations à la libre circulation des personnes que Londres envisage d'instaurer une fois qu'elle ne comptera plus parmi les 28. Enfin, à l'exception, dans une certaine mesure, de la Slovaquie, seul pays du club des quatre membres de la zone euro, tous rejettent l'idée d'un renforcement de la vieille Europe autour de la monnaie unique, un projet qui, selon eux, remettrait en cause la cohésion de l'Union. Et c'est tout cela que le groupe de Visegrad fera donc savoir d'une seule et même voix à ses partenaires européens lors du sommet sur l'avenir des 27 sans le Royaume-Uni le 16 septembre prochain à Bratislava.
L'organiste tchèque Pavel Svoboda a terminé deuxième du concours international annuel Jean-Sébastien Bach qui s'est tenu début juillet à Leipzig en Allemagne. 36 ans après son professeur, Pavel Svoboda est ainsi devenu le premier organiste tchèque mis à l'honneur lors de ce prestigieux rendez-vous. C'est un sujet signé Denisa Tomanova.
Après le succès du pianiste Lukáš Vondráček, récompensé du premier prix au concours international de musique de la reine Elisabeth le 27 mai dernier en Belgique, c'est au tour d'un autre musicien tchèque d'avoir été consacré au niveau international. Destiné aux musiciens du monde entier, âgés de 16 à 33 ans, le concours international Jean-Sébastien Bach se déroule depuis 1950 à l'église Saint-Thomas à Leipzig, dernier lieu de repos du célèbre compositeur allemand. Une année sur deux, le jury récompense non seulement des organistes, mais aussi des violoncellistes et des chanteurs. L'année suivante, ce sont les pianistes, les violonistes et les clavecinistes qui sont mis à l'honneur. Pavel Svoboda explique comment s'est déroulé ce concours.
Le concours a eu lieu sur deux semaines, donc cela a été difficile tant physiquement que psychiquement, car les quatre tours préliminaires représentent toujours un risque. On ne peut jamais être sûr de continuer la compétition, et ce à cause de multiples facteurs comme le moral ou la météo. C'est une question à la fois de chance et de différentes circonstances, et même de l'humeur du jury qui choisit des musiciens parmi d'autres qui jouent en fait tous très bien. Donc, une fois arrivé à la dernière étape de la compétition et que l'on fait partie des trois finalistes, on essaie de se convaincre pour évacuer le stress qu'il ne s'agit plus que d'un concert. On essaie de profiter pleinement de notre morceau et on est tout simplement reconnaissant de pouvoir jouer à l'église Saint-Thomas.
Avant de choisir le trio d'organistes gagnants, le jury du concours a opéré une sélection parmi des dizaines de musiciens du monde entier. Dès janvier 2016, les participants ont eu tout d'abord l'obligation d'envoyer une vidéo d'une demi-heure afin d'éviter de possibles fraudes. 12 organistes ont été choisis au deuxième tour, 6 ont été sélectionnés pour le tour suivant. Les trois finalistes se sont produits à l'église Saint-Thomas pour la quatrième et dernière étape de la compétition. Pavel Svoboda a dévoilé que le répertoire interprété lors de ce dernier concert comportait non seulement des œuvres de Jean-Sébastien Bach, mais aussi des compositeurs contemporains comme l'allemand Max Reger, dont on commémore cette année les 100 ans de sa mort. Précisons que cette année, le premier prix du concours a été remporté par le japonais Kazuki Tomita et la troisième place par la russe Alina Nikitina. Déjà lauréat en 2013 du Festival international de musique classique, le Printemps de Prague, l'organiste tchèque a spécifié en quoi la consécration au Festival de Leipzig constitue pour lui un événement marquant.
Cela a toujours été pour moi, je ne peux aller jusqu'à dire un rêve, mais comme une apogée. J'aime énormément Jean-Sébastien Bach. Je trouve que la totalité de son travail est un travail de génie. Donc, cela a été la suite logique des choses. Où peut-on aller lorsqu'on aime Bach ? Bien évidemment, à Leipzig.
Pavel Svoboda, qui est également président de l'association Pro Varhany, ayant pour objectif de protéger les précieux orgues historiques, a notamment indiqué que la République tchèque avait encore beaucoup à rattraper en la matière en comparaison avec l'Allemagne, à commencer par l'orgue de l'église Saint-Thomas de Leipzig, qui est un unique instrument en son genre. Dans la mesure où le concours international Jean-Sébastien Bach a été un des concours les plus difficiles, le jeune organiste de 29 ans a dévoilé quels étaient ses projets à venir.
Là, je n'ai vraiment qu'une seule envie, celle de ne pas voir d'orgue pendant quelques jours. Puis je vais jouer à l'Académie Václav Hudeček dans la ville de Luhačovice et après à un concert à Udine, en Italie. À Prague, ce sera le 11 août à l'église Saint-Jacques dans le cadre du Festival international d'orgue et aussi à Passau en Allemagne.
Pavel Svoboda, qui fait également partie de l'ensemble Barocco Sempre Giovane, se présentera notamment à l'occasion d'un autre festival international d'orgue qui se tiendra dans la ville d'Olomouc au mois de septembre. À l'heure actuelle, Pavel Svoboda prépare un projet qui voudrait présenter au grand public l'œuvre complète pour orgue de Jean-Sébastien Bach.
C'est donc la fin de ces faits et événements. Merci de votre attention. Vous êtes à l'écoute de Radio Prague et on passe à la deuxième partie de notre émission. L'acte meurtrier qui s'est produit jeudi dernier à Nice a figuré à la une de l'ensemble des journaux tchèques qui ont largement relayé l'information en y ajoutant des analyses et des commentaires. Nous vous en présenterons quelques extraits. La République tchèque devient une destination privilégiée pour les cinéastes étrangers. Nous vous expliquerons pourquoi. La qualité de certains produits alimentaires qui se vendent dans le pays ne répond pas à celle des produits identiques que l'on peut trouver dans des pays voisins. Tel est un autre sujet de cette revue de presse présentée par Alena Gebertova et dans laquelle vous retrouverez également un extrait d'un entretien avec un physiothérapeute tchèque reconnu qui accompagnera les athlètes tchèques aux Jeux olympiques de Rio.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
Une terreur sans fin, tel est le titre de l'éditorial de ce lundi du quotidien Mladá Fronta.dnes, dont lequel son auteur a écrit entre autres.
Le massacre de Nice a montré qu'il n'était pas possible de se protéger des terroristes qui habitent la rue qui est la nôtre, et encore moins de prévenir leurs attaques. De tels actes sont de plus en plus nombreux, ce qui risque de mener inévitablement à la radicalisation de la société. Cette fois, on a vu un des attentats les plus horribles de ces derniers temps, car pour pouvoir le réaliser, son auteur a agi seul, sans avoir besoin d'une bombe ou d'un fusil. Le volant d'un camion lui a suffi pour être efficace.
C'est aussi la raison pour laquelle l'auteur d'une analyse publiée dans l'hebdomadaire Respect considère que l'attaque de Nice a suscité chez les Européens une panique, des craintes et une colère plus grande encore que les précédentes attaques coordonnées de novembre dernier à Paris, même si ces dernières ont fait plus de victimes.
Paris lutte contre les djihadistes non seulement en Irak et en Syrie, mais aussi en Afrique. À la différence des États-Unis, la France est plus facilement accessible.
C'est ce que remarque l'auteur d'un texte publié dans l'édition de ce samedi du quotidien Lidové Noviny sous le titre « Les djihadistes détestent la France » qui analyse le contexte de l'acte violent qui a eu lieu à Nice et dans lequel il a aussi écrit.
Trois grandes attaques terroristes en l'espace de moins de 2 ans. En janvier 2015, l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo et contre un supermarché cachère à Paris a fait 20 morts. Les attaques de novembre dernier à Paris ont fait 137 morts, tandis que celle de Nice en a fait plus de 80. Plusieurs autres attentats ont été déjoués ou avaient une moindre ampleur, que les attaques aient été effectuées par des terroristes de l'organisation de l'État islamique ou par Al-Qaïda. Elles avaient toujours un seul objectif, la France.
L'auteur signale que tout en considérant les États-Unis traditionnellement comme leur ennemi numéro un, c'est la France que les radicaux extrémistes détestent le plus, car elle représente pour eux un pays qui met en pratique les principes d'un libéralisme séculier ainsi qu'une puissance laïque qui défend des valeurs comme la liberté de parole et la démocratie. Il s'agit là de valeurs qui sont pour les islamistes inacceptables, d'autant plus qu'ils estiment que Paris cherche à les imposer au monde de l'islam. La Tchéquie devient de nouveau une destination privilégiée pour les producteurs de cinéma étrangers. Leur présence dans le pays est bénéfique également pour l'économie tchèque, qui s'attend de ce fait rien qu'au cours de cette année à un profit de près de 5 milliards de couronnes. Cet intérêt est dans une grande partie dû au fait que l'État rend aux équipes étrangères une partie de leurs frais dépensés dans le pays, une pratique mise en application dès l'an 2010. Selon les responsables de la commission cinématographique tchèque chargée d'inviter dans le pays des cinéastes étrangers, leur nombre est actuellement 5 fois plus élevé par rapport à ce qu'il était avant cette date. La page culturelle du quotidien Hospodářské noviny a informé de certaines réalisations internationales intéressantes prévues pour cet été et les mois à venir, avec la participation de stars comme Robert De Niro, Al Pacino ou Shia LaBeouf.
La Tchéquie semble bien se prêter notamment au tournage de films historiques, avec la série Knightfall sur le sujet de la persécution des Templiers au XIVe siècle, la série Britannia sur la conquête d'Albion par les Romains, ou encore une série consacrée à Albert Einstein. Dans les prochains jours, le complexe de tennis tchèque le plus connu, Štvanice à Prague, va se transformer en celui de Wimbledon pour devenir le lieu de la légendaire finale entre John McEnroe et Björn Borg, disputée en 1980.
Des studios de films disposant de professionnels qualifiés, de beaux paysages, des châteaux et des manoirs. Autant d'attraits que la Tchéquie peut offrir et qui sont appréciés par les cinéastes étrangers. Par ailleurs, lors de son récent séjour aux États-Unis, le chef de gouvernement Bohuslav Sobotka a rencontré les cinéastes américains pour les encourager à venir tourner encore davantage leurs films en République tchèque. La qualité de certaines denrées alimentaires qui sont proposées aux Tchèques est inférieure à celle de certains produits pourtant identiques chez leurs voisins occidentaux. C'est ce que constate un article mis en ligne sur le site aktualnie.cz qui se réfère aux résultats d'une étude effectuée par le magazine des tests qui a comparé 27 produits proposés par les différentes chaînes de distribution qui sont établies chez nous et à l'étranger. Les résultats se sont appuyés sur un examen de la composition et du goût de plusieurs sortes de produits alimentaires, comme les pâtisseries, les boissons, le chocolat, les yaourts, le jambon. Le site note à ce sujet.
Dans la plupart des cas, les producteurs se défendent en prétendant que les consommateurs dans les différents pays ont des préférences et des goûts différents, et c'est pourquoi il y aurait sur le marché des produits identiques avec des compositions différentes. Cette pratique est cependant dénoncée par la majorité écrasante des consommateurs locaux qui n'hésitent pas à considérer cet argument comme une manipulation arrogante.
Le quotidien Lidové Noviny a pour sa part informé de l'excédent de certains produits alimentaires locaux sur le marché, comme le lait, le beurre et la viande de porc, et qui cause des pertes pour les agriculteurs tchèques. L'appel du ministre de l'Agriculture, Marian Jurečka, qui a invité les consommateurs à acheter prioritairement les produits locaux, n'a pas apporté de résultats attendus, car leur prix demeure souvent supérieur à celui des produits importés. Trouver de nouveaux débouchés pour les produits laitiers dans les pays qui n'arrivent pas à couvrir leurs demandes en lait se présente alors comme une tâche particulièrement urgente, constate le journal. « La plus grande attention des pages sportives des journaux est désormais tournée vers les Jeux olympiques d'été qui commenceront dans 2 semaines à Rio. La dernière édition du magazine Esprit a publié un entretien avec le physiothérapeute tchèque Pavel Kolář, qui accompagnera lors de cet événement les athlètes tchèques et dont le renom dans le pays n'a rien à envier à la popularité dont jouissent auprès du public les célébrités sportives. Il s'est exprimé entre autres sur certaines habitudes physiques des Tchèques en disant
« À mon sens, ce qui est important, c'est de se comporter naturellement. » Je ne suis pas un grand partisan des centres de fitness qui sont utilisés en masse. Je n'apprécie pas non plus le fait que les gens aient tendance à se soumettre à des tendances universelles en vogue. Lorsque le jogging est devenu populaire et lorsqu'il s'est fortement répandu en Amérique, on a vu s'accroître le nombre d'interventions chirurgicales sur les articulations de la hanche, tandis que la vague de la marche rapide a eu pour conséquence un nombre accru d'endoprothèses aux genoux. Le mouvement est important, car chaque individu a besoin d'une certaine condition physique, mais on ne saurait l'appliquer sous une forme universelle. De même, nous sommes trop concentrés sur notre corps, sur notre apparence physique, au lieu de nous interroger plutôt sur les différentes fonctions corporelles. Moi, j'aime bien les exercices qui développent la capacité de l'homme à percevoir pleinement son corps, comme le tai chi et dans une certaine mesure le yoga.
Bref, pour le célèbre physiothérapeute tchèque, l'approche optimale est celle qui améliore la condition physique par une activité naturelle.
Voilà, c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui notre programme qui vous était présenté par Alžběta Rouškova. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site internet de Radio Prague qui est, c'est très simple, www.radio.cz/fr ou que vous pouvez nous retrouver bien sûr également sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy !